Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Leslie Carretero.
Et Mathieu Salabert, bonjour, bonsoir. Il y a 70 ans, les Juifs du ghetto de Varsovie se soulevaient face à la barbarie nazie. Une révolte écrasée dans le sang, mais qui fit comprendre au moins une chose. Face aux épreuves de l'existence, même les pires, et même si cela semble dérisoire ou déraisonnable, il faut s'efforcer de se lever ou de rester debout. Témoignage de l'écrivain et journaliste Léon Abramovitch.
Mourir debout, ne pas s'agenouiller devant le meurtrier, parce qu'on n'imagine pas comment on peut exclure d'une ville tout un quartier, l'entourer de murailles et entasser là-dedans une population quatre fois ou cinq fois plus nombreuse que ce qu'elle était avant la fermeture de ces ghettos, avec des enfants, avec des hommes, des vieillards, des malades, dans des conditions de promiscuité telles que toute maladie devenait immédiatement une épidémie et que les moyens médicaux également faisaient défaut.
Michel Goldstein-Nerves publie chez Max Milo « Nous attendons de vos nouvelles », l'histoire de ses parents rescapés du ghetto de Varsovie. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer la Pologne. La Pologne, un pays doublement traumatisé par le nazisme, mais aussi par le communisme. C'est ce second traumatisme que nous raconte notre première invitée, Beata de Robien. Son roman « Fugue polonaise » est publié chez Albin Michel. Vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Beata de Robien.
Bonjour.
Votre héroïne a 16 ans, c'est une jeune fille un peu maigrichonne qui s'appelle Bachia, c'est un diminutif de Barbara. Elle est à l'âge des premiers émois amoureux, elle écrit un journal intime qu'elle cache dans les toilettes de son appartement. C'est un peu une ado mal dans sa peau, une ado un peu comme les autres finalement.
Comme tous les ados, qu'il y a un moment dans la vie où on n'est pas vraiment bien dans sa peau. Mais les circonstances de la vie qu'elle mène vont faire qu'elle grandira peut-être plus vite que les autres.
Mais parce qu'elle est mal dans sa peau et en même temps elle est mal dans son pays.
Le pays est envahi, libéré par les soviétiques et que ça s'est avéré d'être une nouvelle occupation.
Donc elle vit à Cracovie, hein,
dans elle vit à Cracovie,
ville de Pologne, et elle rêve de quitter cette Pologne communiste.
Parce qu'elle a un amour de la France que lui a transmis sa grand-mère. C'est une famille qui parle français et que c'est un des tares de cette société-là, parce que les Français, ça signifiait pour eux l'élégance, et l'élégance c'était une des choses que les nouveaux régimes combattait, comme aussi parler des langues étrangères, parce que c'était considéré comme un cosmopolitisme et manque de patriotisme.
Oui, alors on est en 1953, donc juste après la mort de Staline. Et le but de Bachia, son rêve, c'est de quitter ce pays qu'elle appelle ce pays de fous. On est page 30 de votre livre.
Chaque matin, j'attendais mon tour pour aller aux toilettes. Je verrouillais la porte et entreprenais la lecture du journal de la veille, coupé en petits carrés accrochés au clou. La tribune du peuple était toujours ennuyeuse. Elle parlait des efforts productifs, de l'échelle des progrès, du plan quinquennal qui était atteint à 110%. En revanche, le monde occidental était au dernier stade de la décadence morale et économique. On ne pouvait faire confiance à personne. Même la Yougoslavie s'était avérée être un nid d'espions et de traîtres. Néanmoins, la Pologne avait encore quelques amis, puisqu'un titre annonçait qu'elle se préparait à des rencontres amicales avec le représentant des pays frères. Les lettres des lecteurs étaient plus intéressantes. Plusieurs dénonçaient les pénuries. Même les petits pots, contenant la bouillie à la pomme pour nourrissons, avaient disparu des étalages. Le rédacteur du journal expliquait aux ignorants que ces manques étaient dus au fait que les dames un peu mûres se ruaient dessus pour conserver jeunesse et beauté, parce qu'ils étaient vitaminés. Il fallait ne pas posséder de conscience socialiste pour ôter ainsi leur pitance aux pauvres bébés. L'article était long. J'avais réussi à le comprendre bien qu'il manquât un rectangle. C'était probablement une photo du premier secrétaire. Je soupçonnais l'oncle Roman de l'avoir choisi expressément pour se torcher. Chaque jour, c'était pareil. Dans la liasse des feuillets, manquait la première page avec les portraits officiels.
Voilà, extrait de Fugue polonaise, ou comment une adolescente de 16 ans fait l'apprentissage du communisme. C'est vrai que la description que vous faites de la Pologne, Beata de Robien, elle est quand même absolument terrible.
Parce que c'était terrible. Parce que aujourd'hui, ça nous fait sourire. Cette soupe qui sent amidon, ces tartines juste avec un peu de sein d'eau par-dessus, et qui constituaient nos dîners. Mais cette pénurie était telle et cette société, dès qu'il y avait il se formait une queue devant les magasins, il fallait prendre le tour et peu importe ce qu'il trouvait à l'arrivée.
Alors vous racontez effectivement la file d'attente devant des magasins souvent vides ou en grande partie vides. On vit dans la promiscuité, hein, donc dans cet appartement de Cracovie.
Parce qu'ils étaient, c'est une famille qui avait des mauvaises origines, donc ils étaient spoliés de leurs biens, ils étaient propriétaires de leur appartement avant, mais quand tous les appartements sont devenus nationalisés, ainsi comme leur maison qui a été depuis des générations dans la famille, qui est devenue un sauve-cause.
Alors, on vit donc aussi dans la bureaucratie, et puis on vit aussi dans la propagande, hein, ce qu'on voyait à travers l'extrait qu'on vient d'entendre, et surtout, on vit dans la suspicion et dans la peur, dans la peur de la milice.
Tout le temps, parce que la milice pouvait rentrer chez vous à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et vous étiez tout le temps espionné, écouté. On disait les murs ont des oreilles. Donc
on peut faire confiance à personne.
Confiance à personne, parce que la délation dans ce pays communiste est très spécifique. Le délateur n'a pas besoin de voir pour parler de vous et de faire les rapports quotidiens de votre vie. Il peut être votre ami, quelqu'un de très proche, ce qui fait que cette délation peut se poursuivre pendant de longues années insoupçonnées.
Oui, sans qu'on s'en aperçoive. Alors, il y a une galerie de portraits qui est vraiment haute en couleur. Le personnage le plus médiocre tel qu'il apparaît au début du roman, c'est le père de Bachia, qui s'appelle Carole, qui est proctologue. C'est un homme un peu veule, hein, totalement alcoolique, pas très courageux.
Mais drôle, oui, mais
sa famille quand même le regarde d'un air un peu triste, quoi. En fait, c'est une sorte de... Pour sa mère, hein, donc la grand-mère de Bachia, et pour son frère Carole, on a entendu dans l'extrait qu'il était un petit peu déviant, on va y revenir, bah c'est un pauvre type, quoi.
Oui, mais c'est un sommité dans son art de chirurgie, c'est aussi une tranche de la société qui est sombrée dans l'alcoolisme. C'est un exemple typique comment ce régime qui a été imposé par les privations, par les prisons, par les chantages, comment il a fabriquer des personnages et des héros et des gens opportunistes et qui rentraient dans les moules et que l'alcool était un de supports.
C'est un moyen finalement de calmer les gens et de les assujettir.
Absolument.
Alors, il y a aussi donc l'oncle Roman. Alors l'oncle Roman, c'est un original, hein.
Bon, c'est un scientifique à jamais brisé, oui. et qui refuse de travailler parce qu'il a compris que ces régimes ne demandent pas ni de votre intelligence ni de votre savoir, mais juste de votre capacité de rentrer dans le moule et obéir.
Il n'y croit plus, lui, quand même.
Il n'y croit plus. Il pense
encore. Il est très ironique, très cynique aussi.
Il pense encore que l'Occident va tout d'un coup réaliser à quel point les communistes sont nocifs et qu'il va réagir. Et enfin, au bout de quelques années, il se rend compte que personne ne viendra à l'aide de la Pologne pour la libérer de l'oppression de son grand frère.
Ouais, alors il y a des scènes assez drôles, hein, parce qu'il manie quand même le mauvais esprit et l'humour noir avec beaucoup de dextérité. Il écoute aussi Radio Free Europe, ce qui est évidemment totalement
interdit. Oui,
ce qui est
absolument interdit.
Voilà. Et puis de temps en temps, il déteint sur Bachia. Par exemple, page 98, il y a une scène qui se passe dans la classe de Bachia. Il y a l'instituteur qui demande qui a le plus changé l'histoire. Et Bachia répond, les auteurs de nos manuels.
Ouais, voilà, ça c'est une de blâme, elle aura un blâme pour ça, et ça commencera son problème avec le directeur de l'école, qui lui, souvent, assiste au cours pour pas uniquement juger les élèves, mais aussi les professeurs.
Mais alors, Bachia, justement, dans ce contexte-là, elle est un peu provocatrice, à l'image de Roman, ou elle est un peu naïve ?
Elle est un peu naïve. Pour moi, Bachia est narratrice de ce livre, mais les personnages principaux, c'est la grand-mère, parce qu'il fallait montrer aussi certes, il y avait ceux qui faisaient du zèle, ceux qui étaient opportunistes, chaque société possède ses opportunistes et ses zélateurs, mais il y avait aussi ceux capables de courage, et ça c'est grand-mère.
Alors on va y revenir, mais on va rester sur Bachia un petit instant. Bachia, bon, bah, elle a des copines, elle a des camarades de classe forcément, et sa meilleure amie s'appelle Ivanka. Et Ivanka, c'est un peu un personnage, un peu un serpent, quoi. Bon, elles sont très très amies, mais en même temps, comme son père est un apparatchik du Parti communiste, elle passe son temps finalement à manipuler, à trahir Bachia, elle s'en rend pas compte.
Parce que Bachia est un enfant un peu scellé et qu'il a besoin d'amour. Donc cette fille qui lui tend la main et qui devient son amie, Bachia ne voit pas la malice.
Et sa naïveté, petit à petit, elle se confie à elle.
Et on voit aussi des contrastes entre cette vie misérable que cette famille... avant la guerre, de certaines respectabilités et assez aisées, normalement aisées, et vit dans la misère, alors que les apparatchiks vivent au-dessus de la moyenne de toute la société.
Fugue en la mineure de Chopin.
La seule fugue que Chopin a écrite.
Et c'est elle qui a donné le titre à votre roman. C'est un morceau que l'oncle Roman adore et joue même d'ailleurs d'une certaine façon. Et c'est un morceau
parce qu'il
a manqué de l'emmener en prison.
De certaines façons, parce que quand la famille vit dans un demeure total, la grand-mère vend les pianos de Roman, et Roman, il peint les touches de piano sur une table de la salle à manger, et écoutant les concerts à la radio, et il joue, il fait semblant de jouer.
Alors, la grand-mère, on va y venir, parce qu'effectivement, c'est un personnage central, c'est un personnage fascinant. Hein. C'est quelqu'un qui apparaît au début du roman comme très austère, comme très distante, qui est de bons conseils. Hein. On sent que c'est elle, finalement, la vraie patronne, quoi. C'est une maîtresse-femme.
Oui, elle a... Ce qui m'a frappé, c'est que c'était très jeune, finalement. Et la grand-mère... Elle a 54 ans. Elle a déjà connu plusieurs régimes, puisque elle a connu la guerre de 14, forcément. Elle a connu l'indépendance de la Pologne qui est advenue en 1918. Elle a connu le régime de Pilsudski. Puis la guerre, qui est en Pologne, d'abord dans cette partie de la Pologne, c'était d'abord l'occupation russe, soviétique, et après... Quand elle s'est échappée de l'est de la Pologne pour arriver à Cracovie, c'était pour tomber sous l'occupation allemande. Puis, en 1945, les libérateurs qui se sont avérés d'être les oppresseurs de nouveau. Mmh. Et elle garde une certaine distance vis-à-vis de tout ce qui lui arrive, avec un optimisme légèrement contagieux, parce qu'on veut croire que la mort de Staline va enfin desserrer l'étau et qu'il changera. Mais en Pologne, il fallait attendre jusqu'à l'année 55 et 56 pour que les changements... Alors oui. Qu'en Russie, on les a sentis les lendemains.
Oui. Alors, c'est vrai qu'en plus, donc non seulement elle veut croire, comme vous le disiez, à ce que ça s'améliore, et puis elle croit déjà, parce que c'est quelqu'un de profondément croyant, qui croit en Dieu, qui va à l'église, même si, forcément, dans la Pologne communiste, c'est mal vu.
C'est mal vu, parce qu'on veut absolument que les pays soient laïcs, et il y a une grande persécution des prêtres. Et dans l'année 53-54, il y avait, dans seule Cracovie et dans environ 900 prêtres arrêtés.
You wake up to the sound of alarms and you're driving your fabulous car
listening to the music that reminds you. You used to be young, you used to be young, and now you're searching for a sign with your name to define you. The king of the game, what will you do when there's nothing left for you to earn and for you to learn? So dose me up, once is not enough, I can still see the ground, and from this high rise you looking down on you. I'm not the one wasting my time, and every culture has its own magazine, and information takes the place of your dream.
Tom McRae, End of the World News sur RFI. Tom McRae qui sera en concert le 30 avril au Café de la Danse à Paris. VMDN avec Beata de Robien pour Fugue Polonaise chez Albin Michel. Alors on parlait de la grand-mère de la narratrice Bachia, Beata de Robien. Alors vous le disiez, elle est francophile, hein, c'est très important. Elle fait apprendre d'ailleurs le français à sa petite-fille. Elle lui présente la culture française sous un jour extrêmement sympathique. Et bah, du coup, Bachia, elle rêve d'aller en France. Ouais. D'autant que, bon, bah, c'est a priori là que s'est installée sa maman.
Elle est aussi fascinée par la littérature française, parce que elle dit à un moment donné, la littérature française, c'est il y a l'amour, et alors que en Pologne, quand on aime, c'est la patrie. On vit et on meurt pour elle. Et elle veut avoir une autre vie, une autre façon de regarder, comme toutes les adolescentes.
Et puis un beau jour, elle va à Varsovie.
Et elle rencontre, devant le dessin de Picasso,
un touriste français.
Un touriste français qui n'est pas tout à fait un touriste, parce que c'est un communiste. Et
il fait partie de ces groupes de communistes français qui allaient visiter les pays
frères.
Voilà. Et donc c'est un breton, il s'appelle Christian Le Goff, c'est un syndicaliste, et là, coup de foudre.
Un coup de foudre, et ils échangent leur adresse. Il arrive à Cracovie pour la voir, et là, Bachia tombe évidemment amoureuse parce que le garçon est très beau. Elle peut parler français, enfin, qui lui sert à quelque chose, parce que jusqu'à présent, elle pouvait que lire en français. Elle n'avait pas d'occasion, à part la grand-mère, d'échanger des mots. Et
On va pas raconter la fin. Elle se pose des questions, mais c'est vrai que c'est pas facile dans un pays communiste d'être amoureux d'un étranger. Donc
fréquenter les étrangers. Mais elle prend les risques. Ça, c'est le privilège d'âge. À 16 ans, 17 ans, on prend ces risques-là.
Est-ce que c'est votre histoire, Beata de Robien, que vous racontez peu ou prou dans ce roman?
Chaque romancier, il met quelque chose de lui-même dans son roman. C'est certain que je pense à ces livres depuis 15 ans, moi, avant d'écrire même l'histoire de la Pologne, le roman de la Pologne, parce que c'était un peu l'histoire de ma famille. Parce que j'avais cet amour pour la France et que j'ai réalisé mon rêve de venir faire des études en France. Et donc, maintenant, je vis un peu à Paris, en Mayenne et à Varsovie.
Beata de Robien, on vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission, juste après le flash avec Michel Goldstein-Narvaez, qui publie chez Max Milo. Nous attendons de vos nouvelles, l'histoire de ses parents rescapés du ghetto de Varsovie. À tout de suite.